9h, 11h.
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Europe 1 pour faire avec vous et avec Julie au quotidien le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Questions d'actualité et questions dans l'air du temps avec vos témoignages sur les sujets abordés pour faire avancer avec nous la compréhension. Et justement, nous allons essayer de comprendre pourquoi en 2018, dans l'une des plus grandes villes de France, deux immeubles peuvent s'effondrer naturellement. Accident meurtrier provoquant la colère des habitants et l'atermoiement évidemment. Qui gère aujourd'hui l'urbanisme? Que disent ces drames de notre parc immobilier et de notre gestion du danger? Comment créer les villes exemplaire de demain? Nos invités vous répondent et vous pouvez témoigner dès maintenant, Julie.
Au 39-21, 50 centimes la minute. Vous appelez et on vous rappelle. Et puis il y a le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
Absolument. Et puis à 10h, 50 ans après la sortie de l'album The Beatles, remasterisé pour l'occasion, on s'intéresse à l'héritage des quatre fabuleux. Pourquoi leur empreinte est-elle toujours si forte aujourd'hui? Si vous êtes fan des Beatles, dites-nous pour vous ce qu'ils ont apporté au rock, à la musique, avec leur style, avec leur esthétisme. Laurent Soligny, spécialiste, sera rejoint par deux fans absolus de ce groupe, Laurent Voulzy et Thierry Ardisson. C'est parti jusqu'à 11h sur Europe 1.
9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Et nous revenons sur l'effondrement de deux immeubles à Marseille. Comment expliquer cette situation? C'était il y a une semaine tout juste. Jean-Baptiste Hérault est avec nous, porte-parole et fondateur de l'association Le DAL, Droit au Logement. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Ainsi que Jean-Claude Drian, urbaniste qui publiait chez PUF les crises du logement. Vous êtes professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Bonjour à vous.
Bonjour.
Alors on va essayer de comprendre avec vous d'abord la situation de Marseille, puis la situation plus globalement au niveau français. Marseille qui concentre aujourd'hui 10% des habitats insalubres ou dangereux. Ça veut dire, Jean-Claude Drian, qu'il existe une cartographie, un recensement de ces habitations aujourd'hui en France ?
Alors pas vraiment. On a des estimations qui sont fondées sur des statistiques, ce qu'on appelle le parc potentiellement indigne, le parc privé potentiellement indigne, c'est un peu technique, mais qui est finalement le recoupement d'un certain nombre de données qu'on a par la fiscalité sur l'état des logements et leur situation, leur niveau de confort, avec les revenus des ménages qui les occupent. C'est-à-dire que finalement, on va prendre statistiquement des logements qui ont un niveau de confort relativement faible et qui sont occupés par des ménages pauvres. Okay. Et ça, on va considérer que c'est potentiellement du logement potentiellement indigne. Et c'est de ça qu'on tire le chiffrage dont on dispose aujourd'hui d'environ 400 000 logements. Après, pour savoir s'ils sont réellement indignes, il faut aller voir sur le terrain.
Indigne, insalubre, quelle définition on met dans tout ça, Jean-Baptiste Hérault, vous qui connaissez aussi l'existence de ce parc immobilier aujourd'hui?
Indigne, c'est-à-dire il y a deux grandes catégories de logements indignes. Il y a le logement insalubre, c'est qui est dangereux pour la santé des occupants, oui. L'humidité, etc.
D'accord.
Et on a le logement, le péril. Donc là, qui risque de s'effondrer. C'est ce qui s'est passé à Marseille. Si on a un double, on a au moins, ce dont on est sûr, c'est que c'était des immeubles qui étaient fragiles. Mm-hmm. L'immeuble appartenant, et qui était vacant, appartenant à Marseille Habitat, donc à la ville de Marseille, était laissé complètement à l'abandon. Le toit à moitié effondré depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, avec des infiltrations d'eau, les intempéries qui sont tombées, qui ont rongé forcément le mur mitoyen de l'immeuble.
On a les photos, les vidéos, c'était très facile aujourd'hui
de s'en guider. Clairement, la responsabilité de la ville de Marseille, ou en tout cas de Marseille Habitat, est engagée, parce que dans ces circonstances-là, normalement, on doit étayer les deux immeubles, on doit détruire l'immeuble, la dent creuse, on doit le détruire, avec prudence, bien sûr, et on doit étayer les deux murs, les deux pignons, c'est-à-dire les deux immeubles mitoyens, étayer avec des charpentes, voire même mettre des charpentes en travers. Enfin bon, on a des structures pour conforter et éviter l'effondrement de ces immeubles qui sont en général dans les centres-villes anciens, adossés les uns aux autres.
Au lieu de quoi, on a laissé pourrir la situation pour vous?
Clairement.
Oui.
C'est-à-dire, là, il y a une négligence coupable.
Que reconnaît d'ailleurs le maire aujourd'hui, Jean-Claude Gaudin.
Et criminel. Mmh. Criminel, puisqu'il y a eu des morts. Et donc, du coup, là, il va falloir dégager responsabilité. Le deuxième point, c'est que les travaux de fouilles ont cessé. Et il y a des habitants du quartier, je me suis rendu samedi dernier, parce que j'ai rejoint la Marche Blanche, des habitants du quartier qui disent, mais il y avait des allées et venues dans l'immeuble abandonné, des gens qui venaient s'abriter là pour passer la nuit, etc., malgré la pluie et la destruction des planchers. Et donc, ils se demandent s'il n'y a pas des personnes qui sont encore ensevelies sous les gravats.
Ouais. Alors, il faut savoir que légalement, il y a des procédures si les risques pour la santé ou pour la sécurité des habitants sont avérés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va y revenir dans le détail, le locataire peut déclarer déclarer l'insalubrité à la mairie. Le propriétaire, s'il ne bouge pas, encourt de très lourdes amendes, voire une condamnation pénale. Si rien ne bouge, c'est théoriquement à la mairie, justement, de prendre le relais pour déclarer cet arrêté de péril imminent et pour faire évacuer de fait les habitants de ces logements.
Oui, c'est à peu près ça. Alors, c'est pas le locataire qui va déclarer l'insalubrité, mais il va effectivement dénoncer la situation auprès de la mairie, qui va faire l'expertise du logement et qui va en tirer un arrêté d'insalubrité. Et ensuite, effectivement, le premier responsable, c'est le propriétaire. Alors que ce soit un propriétaire public ou un propriétaire privé, dans la plupart des cas, ce sont des propriétaires privés, propriétaires individuels, qui sont les premiers responsables, logiquement. Hein. Ensuite, si le propriétaire ne fait pas les travaux qui ont été ordonnés en quelque sorte par l'arrêté d'insalubrité ou par l'arrêté de péril, évidemment, la mairie doit se substituer et faire les travaux et endosse du coup c'est elle-même aussi la responsabilité.
Oui. Alors, de fait, dans tous les cas,
péril,
la mairie
c'est même une responsabilité directe.
Je nuance un peu, parce que Jean-Claude Drian, parce que l'insalubrité est compétence du préfet de l'État.
Oui.
Donc c'est à l'État de prendre un arrêté d'insalubrité, c'est lui qui va envoyer l'agence régionale de santé, les services qui vont vérifier le niveau d'humidité et la gravité que représente pour la santé des habitants l'insalubrité de l'immeuble. Par contre, pour le péril, c'est une mesure de police qui est très structurée et qui permet au maire d'intervenir en toutes circonstances avec tous les moyens possibles.
Avec urgence, s'il le faut. Hein.
Avec urgence, s'il le faut. Et on a vu que les locataires de l'immeuble qui s'est effondré ont été évacués quelques heures et réintégrés. Qui a ordonné la réintégration de cet immeuble qui s'est effondré quelques jours plus tard? Donc là aussi, il y a
Qui vous avez la réponse?
On ne sait pas. On ne sait pas. Là, c'est l'enquête qui dira la suite. Bon, et donc le sujet qui se pose, et par ailleurs, les habitants de ces immeubles qui soient insalubres ou en péril. Et après, il y a plusieurs niveaux de péril. Vous avez le péril simple, vous avez le péril imminent, et vous avez le péril imminent avec évacuation. Bon, et donc là, le maire intervient à tout moment, y compris la nuit. Nous, on a connu un immeuble. C'était dans le 20e arrondissement. Le locataire vient nous voir et nous dit ah. On a du mal à ouvrir les portes. On a tout de suite été voir sur place. On a appelé les pompiers, parce que c'est la première chose qu'il faut faire. S'il y a des fissures et des problèmes, il faut appeler les pompiers. Et ensuite, les pompiers sont arrivés. La préfecture de police, qui était compétente du sujet, à Paris, c'est un peu particulier, a envoyé l'expert. Et dans les deux heures qui ont suivi, les CRS étaient là pour évacuer l'immeuble. Bon, alors, ils auraient pu nous envoyer d'autres choses que les CRS, c'est sûr. Et ils ne sont pas occupés du relogement des gens, c'est aussi certain.
Oui.
Mais en tous les cas...
Il y a une réaction quand même immédiate.
Voilà, réaction immédiate. Et donc, ensuite, l'immeuble a été conforté, etc. Parce que, bon. Et ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les occupants aussi ont des droits. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un arrêté d'insalubrité simple ou de péril simple est pris, le loyer n'est plus dû par les locataires. Et ensuite, si la situation se dégrade et qu'il y a une insalubrité ou un péril irrémédiable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre solution que d'évacuer les gens, eh bien, ils doivent être relogés aux frais du propriétaire. Si le propriétaire ne le fait pas, la collectivité publique, à l'initiative, doit le faire.
Vous comprenez, avec nos invités, qu'il existe des procédures très détaillées aujourd'hui en matière de logement, insalubre, indigne, avec des mairies, des responsables, l'État mobilisé, les propriétaires, les locataires aussi qui doivent jouer la transparence. Tout ça a été au cœur des messages portés par la Marche Blanche à Marseille, à laquelle vous avez participé, Jean-Baptiste Hérault, pour le droit au logement. On va y revenir après la pause. Que demandez-vous aujourd'hui? Et n'hésitez pas à témoigner, parce que vous êtes peut-être vraiment témoin visuel ou même victime, j'allais dire, de ces logements insalubres. Le standard vous est ouvert, n'hésitez pas à réagir de manière anonyme.
21. On fait le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Logement insalubre en France en 2018, qui est responsable? On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard.
Au moins 400 000 logements insalubres ou à l'état indigne, en tout cas avec surtout dans ces logements des hommes, des femmes, des enfants, des familles qui sont aussi victimes de ces propriétaires peu scrupuleux, de cette déresponsabilisation d'un certain nombre d'autorités. Nous en parlons avec Jean-Baptiste Hérault, porte-parole et fondateur de l'association Droit au Logement. Il était à la marche samedi à Marseille, et avec Jean-Claude Drian, spécialiste de l'urbanisme et auteur des des crises du logement aux éditions PUF. À Marseille, c'était il y a une semaine, deux immeubles entiers se sont effondrés. Les pompiers ont procédé à la démolition d'un troisième. Et Jean-Claude Gaudin admet des manquements de la part de la municipalité une semaine après. On n'en a pas fait assez, explique-t-il, parce qu'on ne nous laisse pas manœuvrer alors que l'insalubrité existe encore. Qu'entendait-il par là ? On ne nous laisse pas manœuvrer. Qui bloque ? Qui empêche ? Qu'est-ce que c'est que cet omerta, Jean-Baptiste Hérault ?
Écoutez, c'est, pour nous, les textes de loi sont très très simples.
Ben oui,
donc, quand il y a un péril, oui. Quand il y a un péril, un agent de la municipalité fait le constat et il doit faire un rapport et il y a un arrêté qui doit être pris derrière. Pourquoi il n'y a pas eu d'arrêté qui a été pris sur cet immeuble du 65, je crois, celui où il y avait les locataires, rue d'Aubagne, et d'autres immeubles marseillais où il y a également des risques d'effondrement.
Alors, pourquoi il y a plusieurs hypothèses ? C'est-à-dire que l'agent n'a pas fait son travail ?
Alors, peut-être que l'agent...
Les agents
Ouais, peut-être que... Je lis dans Le Monde que la préfecture a fait une note expliquant que les agents de la ville de Marseille étaient incompétents. Mmh. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas le métier. Ça, là, il y a une difficulté. C'est-à-dire que quand on doit évaluer sur la sécurité des gens et qu'on a en face de nous des immeubles qui risquent de s'effondrer.
En plus, je connais pas le métier, mais quand on voit des carreaux qui se fissurent, des portes qui ne ferment et qui n'ouvrent plus, Jean-Claude Drian, là, il y a un gros problème de principe de réalité, quoi.
Oui, oui, mais il y a effectivement un ensemble de facteurs qui sont effectivement l'incompétence technique des inspecteurs chargés de faire ce travail. Il peut y avoir, alors je ne le dis pas pour le cas marseillais, mais on connaît ça dans un certain nombre de communes, une faible volonté d'intervenir auprès des propriétaires privés et de.
Oui. Et pourquoi, c'est quoi le deal ? C'est quoi le deal ? Attends, juste pour rester sur ce point-là.
Bah, il y en a deux. Le premier, c'est qu'il faut savoir que le bailleur, s'il a un arrêté de péril sur le dos, il ne perçoit plus les loyers. Forcément, il y a des tentations corruptives.
Donc il dit à l'agent, vous ne mettez pas d'arrêté de péril,
voilà,
et puis on s'arrange.
On imagine qu'il peut y avoir des accords de ce type-là.
Mais ça, quel est son intérêt pour que deux semaines après, l'immeuble s'effondre et qu'il perde tout ?
Ah ouais, mais ça, parce que lui, il ne mesure pas forcément, il est à court terme, il ne mesure pas forcément que son immeuble va s'effondrer.
D'accord, donc c'est une question de gros sous.
Ne me mets pas d'arrêté de péril, parce que est-ce qu'il y avait un arrêté de péril sur un immeuble là, qui était déjà fissuré depuis un certain temps, etc., comme le 63 rue d'Aubagne ? Mmh. Est-ce que... il y avait un arrêté de péril permanent déjà depuis plusieurs années. Non, apparemment non. Oui. Donc si vous voulez, les locataires ont continué à payer leur loyer.
Oui.
Bon, s'ils avaient arrêté de payer leur loyer, alors peut-être que la mairie de Marseille dit bon, on y va mollo parce que ils payent plus leur loyer, les bailleurs vont plus avoir de fric, donc l'immeuble va continuer à se dégrader. C'est cette logique-là. C'est-à-dire, c'est la logique. On laisse les gens se débrouiller entre eux. Voilà. Nous, on va pas investir parce qu'on a autre chose à faire.
Sauf que là, c'est criminel s'occuper. Et scandaleux.
On doit s'occuper de Marseille Méditerranée. Enfin, je sais plus quoi. Enfin bon, des opérations de prestige, d'urbanisme, mais on laisse se dégrader, s'écrouler les quartiers populaires.
Autre explication.
C'est une des raisons. Pardon. C'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de chiffres solides, c'est-à-dire qu'on a de très grands écarts entre des municipalités qui s'engagent dans des opérations, qui regardent, qui envoient des inspecteurs, y compris sans qu'il y ait forcément de dénonciation des locataires, mais parce qu'ils ont identifié qu'il y a des immeubles qui sont en danger, puis d'autres dans lesquels il n'y a pas de... On ne regarde pas, on choisit de ne pas regarder dans certains cas.
Oui, ce que vous nous dites est terrible. C'est un constat que feront peut-être un certain nombre de nos auditeurs. Si vous habitez dans des logements dits insalubres ou indignes, n'hésitez pas à venir témoigner. Nous avons le Toulouse qui est en ligne avec nous, avec Nadine. Je lui donnerai la parole dans un instant au 39-21. Elle souhaite réagir aux propos de Monsieur Gaudin et à cet état des lieux terrible. 400 000 logements insalubres en France au moins. Que fait l'État dans cette histoire ? Les mairies, mobilisons-nous avec Jean-Baptiste Hérault, Jean-Claude Drian pour éviter ces drames demain. On se retrouve dans un instant, Julie, avec vos appels.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Nous revenons ce matin sur l'effondrement de deux immeubles à Marseille lundi dernier. Marseille qui concentre aujourd'hui 10% des habitats insalubres ou dangereux en France.
Et nous allons évidemment élargir le sujet, Julie, car il y a 400 000 logements insalubres en France. Et là, on parle d'effondrement. Mais combien d'incendies, combien de personnes tuées aussi et livrées aux mains des marchands de sommeil ? Autre sujet que nous évoquerons avec nos invités, Jean-Baptiste Hérault, porte-parole et fondateur de l'association Le DAL, droit au logement, et Jean-Claude Drian, urbaniste, auteur des crises du logement. Arrêtons-nous quelques instants encore à Marseille avant de donner la parole à Nadine qui est à Toulouse, parce que ce que vivaient les habitants dans ce logement insalubre est probablement aussi à l'image de ce que vivent les autres partout en France. Il y a un habitant qui a filmé quelques minutes avant le drame l'état des lieux de son appartement, avec dans sa salle de bain les carreaux qui se fissurent, avec le mur légèrement décrépit autour des encadrements de porte, la porte qui a du mal à se fermer, le jeu est tellement important qu'il n'arrive plus à s'ouvrir et se fermer. Il se trouve que cet habitant a filmé pour aller prouver qu'il y avait un problème au syndic, il sort de chez lui, un quart d'heure après, l'immeuble s'effondre. Ça veut dire que ça s'effondre comme ça, comme un château de cartes, à un moment donné ça ne tient plus, Jean-Claude Drian?
Ah ben, un immeuble, c'est beaucoup plus fragile qu'on ne le pense, hein, à partir du moment où c'est mal entretenu. Et bon, une fissure, elle peut venir, elle peut s'élargir doucement, tranquillement. Et puis un jour, parce qu'il a beaucoup plu, parce que quelque chose a été fragilisé par la chute d'un objet lourd ou quelque chose comme ça. Et là, ça va immédiatement, ça peut immédiatement déclencher l'effondrement généralisé.
Julie. Mais il datait de quand cet immeuble? On le sait, ça, les immeubles de Marseille qui se sont effondrés 19e. Là.
19e.
Alors, c'est souvent
fin
ces immeubles-là.
19e siècle, deuxième moitié.
Ouais. Ouais. C'est souvent ces immeubles-là qui sont
C'est ce qu'on appelle souvent les immeubles faubouriens, c'est-à-dire les immeubles de fin 19e, début 20e siècle, qui sont pas les pierres de taille haussmanniens, hein, mais qui sont souvent des immeubles qui ont une qualité de construction assez médiocre, qui, s'ils sont bien entretenus, finalement, tiennent très bien la route. Mais il faut qu'ils soient bien entretenus, il faut que les propriétaires investissent de façon constante dans leur entretien. Mais c'est ceux-là qui sont effectivement fragilisés dès qu'il y a un défaut d'entretien lourd.
Ce qui a dû se passer,
et ça va vite. Hein.
Ouais, mais ce qui s'est passé à cet immeuble-là, c'est que c'est les intempéries qui ont creusé en fait les fondations de l'immeuble mitoyen. Et d'ailleurs, on dit un témoignage de maçon qui dit que cet immeuble était sur trois pattes. C'est-à-dire qu'il y avait un des murs porteurs qui tenait plus, et c'était celui qui était côté trottoir et du côté de l'immeuble éventré. Et donc, et à un moment donné, il a bougé les solivages. Alors, il a dû aller du côté de l'immeuble éventré, le pignon, hein, et les solivages se sont décrochés. Les poutres qui vont en travers, hein, se sont décrochées.
Et voilà comment ça s'est affaissé.
Et voilà, et ça s'est effondré.
Ouais, Jean-Baptiste Hérault, vous nous décrivez ce cas marseillais, mais vous qui travaillez aussi dans l'urgence pour le droit au logement, des immeubles qui s'effondrent comme ça, des immeubles incendiés, insalubres, vous en avez vu partout en France?
Malheureusement, oui, il y a eu des drames partout. On se souvient des incendies dramatiques de 2005. Où il y a eu plusieurs dizaines de morts, l'hôtel Opéra, l'avenue Vincent Auriol, etc. Et donc là, il y a eu des incendies accidentels, mais aussi des incendies criminels à caractère raciste, hein, manifestement. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours un peu toujours les mêmes qui meurent dans les incendies ou dans les périls. C'est les gens modestes,
oui.
Souvent des immigrés.
Ceux qui sont
logés dans les conditions les plus dégradées.
Absolument.
C'est ceux qui aussi vont
qui n'osent pas exploiter. Se plaindre aussi, qui n'osent pas se plaindre, qui n'osent
oui,
pas.
Oui, mais alors je vais vous dire pourquoi ils se plaignent pas.
Oui.
Tout simplement parce que ils n'ont pas d'autre alternative que ça, le taudis ou la rue. Et là, dans la rue, on crève.
C'est-à-dire ont les mêmes droits que les autres. Enfin,
ils ont les mêmes droits, mais les gens ont peur de leur bailleur. Parce qu'ils savent que s'ils sont virés par leur bailleur, s'ils s'opposent à leur bailleur, ils risquent d'être foutus dehors. Et comme ils sont très mal protégés, ils risquent même d'être mis à la rue illégalement. C'est-à-dire sans jugement, ça arrive relativement fréquemment. Et quand ils vont porter plainte au commissariat, on les envoie balader.
Alors dans ces cas-là, il ne faut pas prévenir le bailleur. En cas de péril imminent, vous nous disiez tout à l'heure pendant la pause, il faut appeler les pompiers.
Oui, en cas de péril imminent, il faut appeler les pompiers. Et en cas d'insalubrité, c'est-à-dire les enfants sont malades de manière récurrente, il faut saisir l'agence régionale de santé à la préfecture.
Oui.
C'est même pas la peine, dans un certain nombre de cas, de passer par la municipalité parce qu'il
y a des blocages.
Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des blocages qui sont liés, en fait...
Au pot de vin, non, ce qui est terrible, ce que vous racontez.
Non, il y a pot de vin, c'est Marseille. Oui. Moi, je dirais Marseille, de faire quelque chose, faut qu'il y ait une enquête là-dessus.
D'accord.
Il faut qu'il y ait une enquête, il faut que le sujet soit traité. Je dis pas que c'est.
Non, vous engagez-vous là personnellement cette histoire. L'enquête n'a pas prouvé les pots de vin aujourd'hui.
Il faut aller voir. En tout cas, il faut aller voir s'il n'y a pas eu des problèmes de ce côté-là. Après, l'autre question, c'est que les municipalités sont un peu réticentes et ont tendance à renvoyer, en fait, quand il y a un problème d'insalubrité, à renvoyer sur ce qu'on appelait le règlement départemental sanitaire, qui va condamner le bailleur à une simple amende.
Oui.
au lieu d'engager, au lieu de saisir la préfecture, oui. l'agence régionale de santé qui va prendre un arrêté d'insalubrité. Et donc, vous voyez, c'est ça. Et un espèce de truc d'omerta, oui, d'une certaine manière, si vous voulez. Bon, c'est entre les bailleurs, la mairie, voilà. On veut pas trop d'histoire. Tant pis, il y a des victimes au milieu. Vous savez, quand on a la région, ben oui, la région qui dit on va lutter contre les marchands de sommeil, ou même le gouvernement qui dit on va lutter contre les marchands de sommeil, on va les mettre en prison, on va leur piquer leurs biens, etc. En réalité, ce qui manque, c'est la protection des victimes. Et c'est ce qu'on leur dit depuis des années. Protéger mieux les victimes. C'est-à-dire assurer vous, qu'ils ne seront pas expulsés illégalement, c'est qu'ils ça. Seront bien relogés dès lors qu'ils vont porter plainte, etc., etc. Et là, malheureusement, il y a une très grosse défaillante législative ouais. là-dessus.
Ben, on va voir justement sur les 400 000 logements concernés par cette insalubrité, ce que peuvent faire les autorités aujourd'hui. Est-ce que ce sont des immeubles qu'on doit raser, qu'il faut rénover, qu'on peut rénover? J'entends et j'attends la parole de l'urbaniste sur le sujet, Jean-Claude Drian, associé à Jean-Baptiste Thérault, fondateur de l'association Droit au Logement. Et vos interactions, chers auditeurs, témoignages de Nadine, juste après la pause. Je vous donne la parole, madame. À tout de suite, Julie.
Qu'est-ce qui explique encore ces dysfonctionnements et la présence de tant de logements insalubres en France? Et que recommander aujourd'hui aux habitants de ce type de logement?
Oui, c'est la question qu'on pose. Comment engager la responsabilité de la mairie, de l'État, du propriétaire? On peut vous donner le résultat de la question Facebook aussi, Julie, car nous avons posé la question aux auditeurs d'Europe 1 sur la page Facebook de l'émission.
Logement insalubre, faut-il sanctionner plus les propriétaires? Oui, à 94%.
Oui, massif. Et c'est peut-être le cas de Philippe qui est avec nous au 3921. Vous nous appelez de Gagny dans l'Essonne. Bonjour monsieur.
Oui, bonjour.
Très sensibilisé au sujet, je crois. Vous qui êtes propriétaire d'un logement dans un immeuble déclaré insalubre, monsieur. On écoute votre témoignage.
Tout à fait. Alors en fait, je suis propriétaire d'un logement dans un immeuble qui est insalubre, occupant.
Oui.
Et donc en fait, ce logement, tous les locataires ont bien été relogés. Par contre, nous, les propriétaires occupants, bah, malheureusement, on n'a aucune échappatoire. Ça fait 6 ans que ça dure.
Oh là là.
Et donc, la mairie nous balade entre chaque projet, entre chaque projet qui nous balade droite à gauche. Et du coup, bah, on ne sort pas. On n'a aucune échappatoire.
Ça veut dire, Philippe, que vous, actuellement, vous vivez dans cet immeuble. Vous êtes les seuls habitants, quasiment, de cet immeuble insalubre?
Tout à fait.
Oui.
Mes deux propriétaires occupants de cet immeuble, donc il y a 7 logements dedans.
Oui.
Et donc, du coup, la mairie, bah, vu qu'on est propriétaire, elle ne nous donne aucun recours.
Oui.
Donc,
comment se traduit l'insalubrité dans votre immeuble?
Il y a eu un péril simple avec des fissures. Là, il y a eu un renforcement d'une façade avec des étayements en bois depuis 6 ans.
Oui.
Ces étayements en bois commencent à être très détérioré. Et du coup, bah, la mairie, elle s'en lave les mains, elle n'en a rien à faire.
C'est évidemment un logement invendable en l'état, donc vous ne pouvez pas partir.
Tout à fait.
Oui.
Tout à fait.
Et
nous,
vous
on a
sentez. Oui, bien sûr.
On a des crédits dessus, donc on ne peut pas se reloger autre part sans que la mairie ou la préfecture rachète ses logements.
Est-ce que vous pouvez vous retourner contre le constructeur, Philippe, aujourd'hui?
Ah non, cet immeuble a plus de 200 ans.
Ah, évidemment.
C'est un peu compliqué.
Et vous vous sentez totalement prisonnier de la situation?
Ah bah là, on est complètement dans un étau.
Ouais.
On ne sait pas quoi faire.
Alors, bah Jean-Baptiste Thérault, est-ce que vous avez des recommandations, voilà, des conseils à donner à Philippe? Parce que voilà,
c'est que la législation, elle prévoit, elle responsabilise le propriétaire, qu'il soit propriétaire occupant ou bailleur.
Oui.
Et donc, elle va plutôt, malheureusement, un propriétaire occupant dans cette affaire-là, il risque de tout perdre. Il peut peut-être se retourner contre le vendeur. C'est-à-dire que bon, quand il a acheté l'immeuble, il a envie de se cacher.
Oui.
Donc, il faut qu'il aille voir de ce côté-là.
Vous l'avez fait, Philippe?
Bah, le vice caché n'est plus caché. Une fois qu'on a voulu faire des travaux pour me remettre l'immeuble en état.
Oui.
Donc le vice n'est plus caché. Donc, on ne peut plus se retourner sur les vendeurs. Et du coup, c'est quand on a voulu faire ces travaux, la mairie a arrêté ces travaux-là en disant que les travaux étaient pas insuffisants. Et donc, du coup, elle a mis un péril dessus.
Et en l'occurrence, vous occupez...
Parce qu'en fait, à la base, la mairie avait un projet là-dessus. Et donc, du coup, maintenant, le projet, il est tombé à l'eau.
Oui.
Et donc, nous, maintenant, on se trouve entre le... Ben, voilà.
Mais c'est incroyable. Et vous occupez le logement avec des enfants, peut-être?
Bien sûr. Voilà. Un enfant qui a 3 mois, maintenant.
Mais c'est
un petit bébé.
On comprend que vous vivez aussi
Là, il faut qu'il fasse une demande de logement social et un DALO. Hein, je veux dire, il n'y a pas d'autre solution.
Un DALO, qu'est-ce que c'est?
Droit au logement opposable. C'est un dossier qui permet, en principe, en théorie, d'être logé prioritairement, bien que la loi soit assez mal appliquée et mal respectée par l'État.
Est-ce que Philippe peut contacter votre association pour que... que vous l'aidiez aussi en ce sens,
Jean-Baptiste Hérault. Oui, on peut, puis on examinera peut-être le côté juridique. Ouais.
Voilà, on vous mettra en relation, Philippe, avec le DAL, droit au logement, que représente ici Jean-Baptiste Hérault, mais voilà, on comprend l'absurdité de la situation dans laquelle cet homme, avec son bébé de 3 mois, vit aujourd'hui.
Ça semble totalement absurde, mais je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Baptiste Hérault sur la législation. Le propriétaire est considéré comme responsable. En revanche, s'il y a eu péril et s'il y a eu des dispositifs de consolidation de l'immeuble, oui, et que, comme le disait ce monsieur, ces dispositifs sont en train de s'abîmer, là, pour le coup, on retrouve sur une responsabilité de la collectivité de garantir la sécurité de cette consolidation qui a été mise en place.
Sauf qu'il est baladé de la mairie à la préfecture, cet homme, Philippe. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'interlocuteur. Quoi.
Il risque une évacuation.
Ouais. Effectivement, il a des chances avec des chances de succès effectivement limitées, mais il a des chances quand même d'avoir un statut de prioritaire pour accéder à un logement.
Mais dans l'évacuation, il y a un dédommagement pour lui ? On va lui demander d'évacuer, mais il est propriétaire.
Un immeuble pourri, il vaut rien.
Bah, c'est ça. Ouais. Bon. Donc aucun dédommagement. Quoi. Il va tout perdre.
Tout, voilà.
Et son crédit, etc. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah oui. Non, mais excusez-nous, on vous pose la question, vous n'êtes pas responsable.
Je ne sais pas, il y a des mauvaises affaires. C'est-à-dire, il ne faut pas acheter un logement dans un immeuble dégradé.
C'est trop tard pour lui. Hein.
Voilà. Ouais. Mais il faut faire. On a même vu des logements qui ont été achetés alors qu'il y avait un arrêté d'insalubrité ou de péril pris sur l'immeuble.
Et tout ça avait
avec
été caché.
Des bailleurs, mais là, des bailleurs.
Oui, c'est un marchand de sommeil pour le coup.
Ouais, on a une candidate LRM à Saint-Denis qui avait fait ça, qui avait acheté un logement sur lequel il y avait un arrêté de péril municipal et qu'il avait mis en location.
Oui, c'est ce qui a pu se passer pour vous, Philippe. Vous avez l'impression que vous êtes fait avoir aussi.
Moi, j'ai acheté, je suis occupant. Oui. Tous les gens qui avaient acheté, qui étaient en location, dès qu'il y a eu le péril, ils ont relogé leur locataire. Et depuis, il n'y a plus jamais eu de locataire, plus que ce soit, parce que nous, la mairie nous a bien dit que notre immeuble allait être revendu, soit racheté par la mairie, soit par la Seine-Saint-Denis. En fait, c'est le 93, c'est pas les Saônes. Et ce qui se passe, c'est que depuis, il nous balade entre chaque projet. Le PLU n'a pas accepté, a été accepté. Ensuite, après, c'est la préfecture qui doit racheter parce que c'est une voie très passante. Ensuite, c'est parce que là, maintenant, c'est le Grand Paris. Et en fait, voilà. Donc, du coup, ça fait 6 ans que ça dure. Et nous, on se retrouve dans un logement où ça commence vraiment à être très compliqué. Mais on n'a aucune échappatoire. Oui. Nous, on est propriétaires. Et malheureusement, en France, quand on est propriétaire, on n'a pas beaucoup de...
Et propriétaire et victime, et voilà, en l'occurrence, dans ce dossier. De Gagny, en Seine-Saint-Denis, Philippe, merci de nous avoir appelés, on vous met en relation. Rosa, Nadine vont vouloir témoigner également avec nos invités, Jean-Claude Drian, Jean-Baptiste Hérault, sur ces logements insalubres en France. Pourquoi des immeubles en viennent-ils à s'effondrer aujourd'hui, à prendre feu? On va parler aussi des marchands de sommeil dans un instant. Vous avez peut-être été témoin de ces scènes hallucinantes aujourd'hui en France, en 2018. À tout de suite avec Julie et les auditeurs.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Europe 1.
On revient sur les logements insalubres avec des témoignages du côté des locataires. Oui. Et si on instituait officiellement un permis de louer ? Demande un locataire, Philippe. Hein ? Francis, pourquoi y a-t-il des contrôles, des diagnostics quand on vend et pas quand on loue ? Ça pourrait être réalisable, ça.
Oui, Jean-Baptiste Hérault. Oui.
Il y en a.
Oui,
les termites, tous ces machins, là.
Oui, termites, saturnis, plomb.
Oui.
Amiante.
Qu'est-ce qu'il y a, amiante? Oui,
les bailleurs ne respectent pas toujours, même assez rarement. Parce que nous, on a des cas aujourd'hui d'intoxication de la part de l'association des familles victimes de saturnisme, qui sont liées à l'intoxication par le plomb des enfants en bas âge, qui nous disent, oui, on a des cas de saturnisme qui sont révélés, alors que le bailleur n'a pas donné le diagnostic.
Avec des logements indignes, des logements indécents, des logements insalubres. Jean-Claude Drian, vous êtes spécialiste d'urbanisme, professeur à l'école d'urbanisme de Paris. Est-ce qu'on peut faire une surveillance régulière des habitations quand on est locataire, quand on a un doute sur... la bonne santé de son habitation, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Claude Drian?
On fait ce que disait Jean-Baptiste Hérault, on va voir soit sa mairie, soit l'agence régionale de santé, quand on a repéré qu'il y avait une forte humidité, quand on a repéré qu'il y avait des infiltrations, quand on a repéré que le système électrique était dangereux, qu'il y avait des fils qui pendent dans les parties communes, pas seulement dans le logement d'ailleurs, il y a aussi les parties communes, et il y en a beaucoup, et à ce moment-là, on déclenche la venue d'un inspecteur qui va venir locataire constaté.
Frais, aux frais de qui ?
Ah, aux frais de la puissance publique, pas aux frais du locataire.
Très bien.
En revanche, après, quand il y a des travaux, c'est aux frais du propriétaire.
Très
d'abord.
Bien. Oui, qui doit accepter donc ces travaux. Le milieu urbain, parce que vous nous parliez des immeubles fin 19e, concentre-t-il l'essentiel de ces logements insalubres aujourd'hui ?
Alors, il concentre l'essentiel de l'insalubrité connue, repérée, sur laquelle il y a un vrai travail plus ou moins intense mené par les collectivités. En milieu rural ou en milieu périurbain, il ne faut pas négliger qu'il y ait une part significative de logements insalubres ou en tout cas dangereux ou posant problème dans l'habitat individuel. Mais là, pour le coup, il y a très 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 peu de constats qui sont faits. Ce sont très majoritairement des logements qui sont occupés par leurs propriétaires, qui sont de ce fait pleinement responsables
et
qui ont peu tendance d'aller se dénoncer eux-mêmes en mairie.
Oui, on parlait des effondrements spectaculaires pendant la pause et on vient sur celui de Marseille il y a une semaine, mais qui ne doivent pas masquer pour vous la dégradation de la qualité des habitats. L'effondrement, c'est heureusement le cas exceptionnel.
Alors, dégradation, je ne sais pas, encore une fois, on n'a pas de statistiques qui permettent d'avoir un vrai suivi pour savoir si la situation se dégrade. En revanche, il y a bien de l'habitat dégradé, oui, il y a un stock, en quelque sorte, d'habitat dégradé qui date de ces époques-là et qui sont plus ou moins bien connus. C'est-à-dire qu'on a des villes, la ville de Paris, par exemple, fait un travail préventif avec des outils statistiques qui permettent de faire un repérage. Il y a un peu moins de 300 immeubles qui sont repérés à Paris, dans lesquels on va ensuite envoyer des experts qui vont faire des constats.
Nadine, chère Nadine, bonjour, vous êtes avec nous depuis Toulouse au 3921. Bonjour madame.
Bonjour Wendy.
Alors, bonjour. Vous connaissez le sujet pour avoir travaillé dans l'immobilier, Nadine, aujourd'hui?
Oui, j'ai travaillé dans l'immobilier, mais uniquement dans la vente, jamais dans la location. Mais en fait, ce qui me consterne, c'est que j'ai entendu l'interview du maire de Marseille.
Godin, oui.
J'ai également entendu un expert, je crois que c'était à l'émission de Patrick Cohen.
Oui.
Tous les outils existent pour un maire. Tous les outils existent pour qu'il ait la déclaration de péril, etc. Moi, ce que je n'ai pas entendu depuis l'effondrement de ces immeubles, je ne regarde pas la télé, je n'écoute que la radio. Mmh. Voilà, j'en écoute deux, pour tout vous dire. C'est que dont la vôtre. Et en fait, ce que je ne comprends pas, c'est quand j'ai entendu ces locataires qui donnaient le montant des loyers qu'ils payaient, on n'était pas sur de l'habitat social, on était sur de l'habitat privé.
Oui.
Quand les gens vous disent « je paie 470 euros pour 23 mètres carrés », c'est le prix du privé. J'habite à Toulouse, je connais très bien.
Oui.
Donc, est-ce que ces immeubles appartiennent à la mairie de Marseille ? Ça, j'aimerais savoir. Oui,
Non.
C'est privé. Hein.
C'était privé, mais en l'occurrence, les salaires les loyers que vous évoquez pour les conditions de vie sont absolument scandaleux et indécents, Jean-Baptiste Hérault. Là, vous la rejoignez, Nadine, sur le sujet.
Absolument. C'est-à-dire que
vivre dans un taudis, c'est cher payé. Voilà.
C'est-à-dire que le logement est cher en France. Il est de plus en plus cher et les politiques publiques ont tendance à nourrir la cherté du logement. Il n'y a pas l'encadrement des loyers en train de partir à volo.
Il
y a une petite tentative et là le gouvernement actuel est en train de le liquider. On a des politiques d'urbanisme de gentrification, c'est-à-dire qu'on va remplacer les classes populaires dans des quartiers qui deviennent attractifs, qui sont mieux desservis par les transports en commun, comme le Grand Paris ou même Marseille, etc. On dégage les populations les moins riches et qu'on laisse par ailleurs aussi vivent dans des conditions de plus en plus dégradées. On voit une résurgence des bidonvilles quand même dans notre pays. C'est incroyable. On voit des gens qui vivent de plus en plus nombreux dans des caravanes, des véhicules, qui vivent dans leurs véhicules.
Combien de mal logés en France, Jean-Baptiste Hérault ?
On est à 3 millions.
Voilà,
la Fondation Abbé Pierre chiffre à peu près 4 millions de personnes mal logées et environ 10 millions de personnes qui sont en situation de fragilité vis-à-vis de leur situation
comme
de logement.
Comme Bérangère qui témoigne au 39-21 de l'Aude. Asile, j'ai un problème du logement, elle a 72 ans, la pauvre. On m'avait prêté un débarras il y a 10 ans. Quand il pleut, l'eau coule sous mon lit, je n'ai pas de chauffage, pas d'eau chaude, pas de sanitaire, je campe.
Top.
J'ai 1000 euros de retraite et je n'arrive pas à me reloger. C'est ça aussi la réalité de ce mal logement en France. Et on pense à vous, chère madame. À tout de suite avec nos invités.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Les solutions. Voilà ce qu'on cherche.
Ah oui, parce qu'on est tous
même
scandalisés.
Même en off, dans ce studio.
Scandalisés, par exemple.
Scandalisés par le cas de cette auditrice.
Ouais, par Bérangère, 72 ans, qui vit sur un lit de camp quasiment. L'eau coule sous son lit, elle n'a pas d'électricité, pas de chauffage. Elle a 1000 euros de retraite. En France, c'est aussi une réalité. Que faire pour cette dame? Parce qu'elle elle nous écrit de l'Aude.
Elle doit appeler la mairie, les services sociaux. Et
mais elle a peut-être peur de dénoncer
elle doit
cette
être
situation.
Aidée. Non, elle doit être aidée. C'est clair qu'elle doit être là. Elle est une personne en danger. Il faut absolument. Alors après, il y a plusieurs solutions. Il y a la solution du logement social, peut-être dans le parc privé si c'est en zone rurale avec ses revenus, peut-être que. Et en tout cas, il y a aussi l'outil de la réquisition, de la loi de réquisition des logements vacants. N'oublions pas qu'en France, on n'a jamais compté autant de logements vides. Mais il faut évidemment.
Des bureaux essentiellement.
Ça, c'est de la... Pardon.
Non, logements vides.
Logements vacants.
Logement
3 millions de logements vacants. On en a 1 million de plus qu'il y a 10 ou 15 ans. Enfin, je veux dire, là, une hausse exponentielle du nombre de logements vacants qui est absolument problématique.
Bon, mais alors, c'est du squat, ça? Vous encouragez
non,
le squat?
La loi de réquisition. Nous, on propose d'appliquer la loi de réquisition qui est une mesure d'urgence.
D'accord.
Plutôt que d'aller coller des gens dans des hôtels ou des hébergements précaires et très coûteux. Mais il faut aussi produire du logement social, massivement. Ce que ne fait pas le gouvernement, parce qu'il a plutôt tendance à serrer la vis au niveau financier.
Jean-Claude Drian, solution et réaction.
Oui, sur le logement vacant, moi je serais plus nuancé parce que sur ces 3 millions de logements vacants, il y en a beaucoup qui sont dans des endroits où de fait les gens n'ont pas tellement envie d'habiter.
Il y en a 1 million dans des centres de villes moyennes,
enfin tout un ensemble d'endroits. Donc je dirais qu'il faut là-dessus être un peu plus nuancé, me semble-t-il. Mais effectivement, de toute façon, il faut aller chercher toutes les solutions. La réquisition, elle existe dans la loi. De fait. Mais la vraie solution, quand même, c'est le logement social, c'est en produire plus et surtout rendre le logement social plus agile pour répondre à la question de l'urgence. Parce qu'aujourd'hui, les procédures, les délais d'attente, les procédures d'attribution, etc., font que quand on est dans une situation aussi urgente que celle de cette dame, elle n'aura pas la réponse immédiatement. La vraie question, c'est le logement
l'urgence.
Social.
C'est la cherté du logement.
Capacité de réaction.
Il faut agir. Il faut revenir sur l'encadrement des loyers, il faut le remettre en place de manière beaucoup plus vigoureuse. Et puis dire que quand on réhabilite, quand on rénove une ville, eh bien les profits de cette rénovation ne doivent pas aller dans les poches des particuliers, mais ils doivent revenir à la collectivité. C'est-à-dire que le quartier de la rue de Noailles, par exemple, il doit servir, s'il y a des immeubles qui sont détruits, on doit y faire des logements sociaux et pas du logement pour les riches.
Le ministre du Logement et de la Ville, Julien de Normandie, propose, en s'appuyant sur la loi qui a été adoptée à la mi-octobre, d'imposer aux acteurs de l'immobilier, syndic, agents immobiliers, notamment, de dénoncer les marchands de sommeil.
Ah oui,
ça, c'est une bonne chose. Il faut arrêter aussi, il faut être transparent sur le sujet, Jean-Claude Drian. On dénonce, même si c'est une mauvaise...
Alors, loi après loi, on ajoute des petits dispositifs de lutte contre les marchands de sommeil, sachant que on se trouve quand même confronté systématiquement en justice à de grandes difficultés à prouver que le marchand de sommeil est bien un marchand de sommeil, que par exemple, c'est lui qui est responsable du surpeuplement des logements, ce qui est très souvent le cas. Oui. Mais lui, il se défend généralement en disant mais non, mais moi, j'ai loué un monsieur machin, ils sont venus à 10 après, c'est pas de ma faute.
Bien sûr.
Bon, et ça, c'est effectivement dramatique.
Il y a 3 milliards d'euros qui ont été injectés pour les propriétés dégradées, pour les rénover.
Pour les copropriétés dégradées. Là encore, ça fait 30 ans qu'on additionne les programmes d'amélioration des copropriétés dégradées. Ce sont des processus qui sont extrêmement lents. Quoi qu'il arrive, même quand on engage de l'argent, parce que on a affaire à des propriétaires qui n'ont pas forcément les moyens. C'est-à-dire l'argent que l'État va mettre va être de prendre des formes de subventions, mais qui vont jamais couvrir l'intégralité du coût. Et quand on a soit des propriétaires indélicats qui ne veulent pas faire des travaux parce que plus ça se dégrade, plus ils vont pouvoir en acheter autour suite à la baisse de la valeur immobilière, soit qui ne peuvent pas parce qu'ils n'en ont pas les moyens. De fait, les aides publiques rendent
des mesures beaucoup plus vigoureuses.
L'efficacité très faible.
Non, mais de type, quand on a affaire à des logements indignes ou indécents, de type expropriation, réhabilitation lourde ou destruction, relogement des occupants, transformation en logements sociaux. C'est des outils qui ont existé dans les années, qui ont été utilisés dans les 60-70 avec la résorption de l'habitat insalubre. Mmh. Bon, aujourd'hui, on ne les utilise plus. Parce que la propriété privée, et donc les marchands de sommeil, maintenant ils sont sur Internet, les plateformes numériques,
y a
Airbnb
un
et machin.
Répandu quand même, qui est absolument abject.
Ils font, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Je veux dire, on peut louer une merde. On n'a rien à faire, même des gens bien.
C'est ça.
des architectes, des médecins, je veux dire des gens qui sont bien intégrés dans la société et qui louent des taudis aux gens. C'est intolérable, quoi. Je veux dire, pour nous, il y a aujourd'hui un non-respect de l'individu et un mépris de l'individu. Simplement, on va gagner de l'argent sur son dos. Bon, c'est un esclave, on n'en a rien à faire.
Merci,
ça, c'est des pratiques inadmissibles.
C'est le combat de l'association Droit au logement que vous représentez, que vous avez fondé, dont vous êtes porte-parole. Jean-Claude Drian, les crises du logement, vous y avez travaillé. C'est édité chez PUF depuis quelques mois en qualité d'urbaniste et professeur à l'École d'urbanisme de Paris. Nous referons un tour de la question encore plus large sur le sujet, car c'est loin d'être résolu. Merci messieurs de votre présence ce matin. Pardonnez-moi. On va fêter un anniversaire dans un instant. On va le célébrer en musique. L'un des albums les plus célèbres des Beatles, le White Album, sorti en novembre 68. Les quatre fabuleux ont marqué le rock et la chanson mondiale. Et quelques fans nous en diront davantage. Et vous n'hésitez pas à réagir aussi au 3921, cher Julie. A tout de suite.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.